Quel Grand Prix ? Le Canada nous a offert un ballet de Mercedes à faire chanceler un Toto Wolff pourtant né au pays de la valse. La guerre de l'étoile, épisode 1, on l'attendait, on l'a eu, quand le padawan Antonelli fait vaciller le chevalier Russell, atteint par le doute et lâche Kumun. Mais soyons honnêtes, fan ou pas, avouez que vous avez vibré pour le retour du Jedi Hamilton et de sa lutte avec le seigneur Max Verstappen. Trêve de cinéma et de science-fiction, parlons vrai, valide ton paddock pass, on te pistonne dans le club des vrais passionnés de F1. Oh que ça faisait longtemps les amis qu'on ne s'était pas retrouvés sur RMC dans ce beau plateau avec la crème des chroniqueurs F1 dans ce pays. Et j'ai commencé par nommer l'homme qui va bientôt partir pour les États-Unis et pas en vacances, monsieur Hamza Rahmani, comment ça va ?
Ça va et toi ?
La forme ?
On a passé un bon moment ? C'est une question que je pose.
Je te vois ironique.
Oui, oui, on a passé un bon moment.
Oui.
Et toi ? Très bien, ouais, franchement ça va. Ouais. Franchement c'était intéressant, c'était pas mal.
Quand même le seul homme.
Maintenant la question c'est pourquoi ?
Ah, mais ça, est-ce que la bataille est extraordinaire ? Est-ce que tu as trouvé la bataille extraordinaire devant ?
Est-ce que ce n'est pas aussi une question de circuit, de météo, de piste qui rafraîchit ? Mais je sais pas, je pose la question, non, moi, j'ouvre le débat.
Spoiler, c'est le moment où son aigreur va dépasser la norme. C'est aujourd'hui.
Non, voilà. Je dis qu'on doit attendre avant de s'extasier comme je peux lire et entendre depuis hier soir. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment hier soir.
T'as passé un bon moment.
J'ai passé
un
moment.
C'est un mec tellement froid que même sous 32 degrés, il a une veste.
Ah, c'est la clim.
C'est pas faux.
On se préserve.
Monsieur Brice Germain en face de Hamza Rahmani, comment ça va Brice ?
Ça va ? Ça va ?
J'ai l'impression que je te vois pas en 2026. Je suis content, de te retrouver, qu'on puisse parler Formule 1.
Écoute, effectivement, j'ai quelques obligations qui m'empêchent d'être parmi vous tout le temps, mais là, par contre, je suis trop content d'être avec vous.
Et ça fait grave plaisir.
Pour un bon Grand Prix. Tu vois, je laisse les Grands Prix péter à Pierrot. Et là, quand il y a un grand Grand Prix, je fais non, finalement, je viens. Yes.
Si on devait donner une note, les gars, rapidement à ce Grand Prix, ce serait quoi ? Ce serait combien ?
Moi, je mettrais sur 10.
Wow, sur 20, si tu veux.
Sur 100,
sur 50.
Je vais mettre 7.
7 sur 10. Ah, okay.
7 à 7,5.
Ouais, ouais, clairement, ouais. Moi, j'aurais pu pousser sur un 8, mais... Hamza.
Je rappelle la notation d'Hamza sur les conseils de classe. Je vais mettre un 4,5.
Non, 6,5, je pense.
6,5, ouais.
13, un bon 13.
Mais pas forcément pour...
Parce qu'on s'extasie aussi sur la première partie de course, mais après il y a une deuxième partie de course sans les deux Mercedes.
Ouais,
on
c'est vrai.
On a tendance
c'est
un peu
vrai.
À l'oublier.
Ouais, mais on est petits bonbons.
C'est marrant, moi je me souviens d'un chroniqueur F1.
Par contre,
on commence par un H qui n'arrêtait pas de dire il faut pas regarder que ce qui se passe devant.
Oui, bah alors justement, c'est ma question. Moi j'aurais bien aimé voir ce qui se passe derrière, malheureusement.
Il fallait un abonnement multicam.
Malheureusement, disons que la réalisation internationale, comment vous l'avez trouvé cette réalisation ?
Cataclysmique.
Quelle note d'ailleurs pour la réalisation ?
Parce que moi. 3. Ça fait longtemps qu'on existe, les pistonnets.
7 ans.
2019. Okay, donc depuis 7 ans, j'en
l'âge
parle.
L'âge de raison,
maintenant, maintenant, les consciences s'éveillent en 2026. Tant mieux.
Ah, mais là c'était particulièrement nul.
T'es un lanceur d'alerte.
Par rapport aux alertes que t'as pu lancer par le passé, et voilà, là, c'était particulièrement nul. On a même raté un dépassement en tête de la course.
Mais on a raté 3 départs.
Devant, on a raté pas mal de dépassements. Il y a des drapeaux jaunes, on sait pas pourquoi. Enfin bref.
Et on a raté le Lewis Hamilton qui perd 5 secondes sur Max Verstappen à un moment donné, alors qu'il était collé et il y avait la bataille tout
c'est
du
quand
long.
Il se rate, ouais. Ils nous ont montré une petite fenêtre, je crois.
Ah bah ça, la petite fenêtre, c'est leur petite roulette pour, sur le vélo.
Non, mais en fait, l'idée est bonne. L'idée de la petite fenêtre est bonne. Par exemple, t'es obligé d'avoir l'arrivée d'Antonelli. Et bah sur la petite fenêtre, tu mets la bataille Verstappen-Hamilton. Moi, l'idée de initialement, je la trouve excellente. Maintenant, c'est son utilisation qui est moins bonne. D'ailleurs, moi, je sais toujours pas. À moins que ça m'ait échappé sur le direct, mais je sais pas comment Isaac Hadjar s'est retrouvé devant Charles Leclerc au moment des arrêts au stand. S'il s'est passé une.
Bah non, c'est double arrêt.
Chez Ferrari.
C'est double arrêt, ils étaient collés.
On va en parler.
Non. Pourquoi je réponds alors qu'il le sait ?
Ouais, bien sûr.
C'est intéressant de le voir.
C'est le charme d'Amazon. On adore. Ça y est, ils sont réunis. Les amis, on est très contents en tout cas de vous retrouver sur RMC. N'oubliez pas bien évidemment de liker cette vidéo pour commencer. Et puis n'oubliez pas de vous abonner aussi sur les comptes. Eh bien, Paddock Pass. On vous retrouve sur X notamment et sur Instagram. Les gars, le résultat justement, c'était la cinquième manche de ce Grand Prix, de cette saison 2026, pardon, le Grand Prix du Canada. Le rendez-vous était donné du côté de Montréal avec la quatrième victoire consécutive, quatrième victoire en carrière, quatrième victoire en 2026 pour Andrea Kimi Antonelli. Meilleur résultat dans son histoire avec Ferrari pour Lewis Hamilton, son deuxième podium dans cette saison. Premier podium cette saison pour Max Verstappen qui finit troisième. Charles Leclerc en grande difficulté qui prend les points de la quatrième place. Isaac Hadjar, meilleur résultat de de sa saison et chez Red Bull avec cette 5e place. Franco Colapinto dans le top 6, ça c'est très important. Liam Lawson à la 7e place. Pierre Gasly, un autre Français dans le top 10, il est 8e. Carlos Sainz, 9e. Et puis Oli Berman qui prend un petit point sur la Haas. Voilà pour ce top 10. On rappellera qu'Esteban Ocon était hors des points et on rappellera qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'abandons. Les gars, juste sur ce classement, est-ce qu'il y a un sujet dont on ne va pas parler, dont vous souhaitez parler après avoir vu tout ça? Franco Colapinto, encore épatant, ouais, hein, il faut le dire.
Moi, j'allais dire ça, sur la forme de Franco Colapinto. L'année dernière, Gasly était absolument seul dans l'écurie pour mettre des points. Est-ce que c'est l'équilibre de cette voiture qui convient mieux à l'Argentin? Est-ce que c'est aussi un peu de motivation parce qu'on a un moteur dans la voiture qui performe malheureusement mieux que le bloc Renault de l'année dernière? En tout cas, il est en train de faire forte impression. Et si Pierre Gasly a quelques soucis avec sa monoplace, il ne va pas falloir que ça dure trop trop longtemps non plus, parce que Flavio Briatore, on sait qu'il a récupérer un truc de Bruno Famin qui s'appelle trancher dans le vif.
Il a dit d'ailleurs, Flavio Briatore, il a dit on va organiser des sessions en ville à Buenos Aires un peu plus souvent, parce que depuis qu'il est allé rencontrer son public et rouler dans les rues de Buenos Aires, bah, ça va beaucoup mieux en tout cas pour Colapinto. Hamza, autre chose a retenu ton attention, ou même tu peux continuer sur Franco,
hein? Non, Brice a quand même évoqué assez largement Colapinto. Moi je vais évoquer, tu sais, dans des conditions assez piégeuses, j'attends forcément beaucoup des jeunes. Parce que c'est justement propice à commettre des erreurs, ce type de conditions, et sur un circuit exigeant et compliqué. Et finalement, si tu prends Oli Berman, si tu prends Isaac Hadjar, si tu prends Liam Lawson, si tu prends, est-ce que j'en oublie un, bah, Colapinto, on peut aussi le considérer comme un jeune en Formule 1. Bah, ils ont pu performer, terminer dans les points sans trop commettre d'erreurs, donc c'est quand même à valoriser.
Exactement. Voilà les amis, en tout cas pour les sujets dont on ne parlera pas. Et désormais, les quatre enseignements, les quatre points qui ont retenu justement eh bien, notre attention à l'arrivée de ce Grand Prix. Alors, pour invocation, on va parler des quatre top teams parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais vous allez voir, les Grands Prix vont se succéder et on aura l'occasion bien sûr d'ouvrir d'autres portes dans ces débriefs. On va commencer avec la guerre de l'étoile, Russell, Antonelli, les premières frictions en course sprint, et puis surtout eh bien, un bel écart désormais au championnat du monde après les malheurs de George Russell. Hamilton, le retour du roi, le roi Luigi, il faut l'appeler comme ça désormais du côté de chez Ferrari. C'était l'une des belles réjouissances justement eh bien, de ce week-end. Red Bull, pas mal pour un tronc d'arbre, avec la meilleure performance de cette saison pour l'écurie autrichienne. Et puis McLaren qui déboîte le travail de Woking. Il y avait de la performance, il y avait des évolutions, des améliorations du côté de l'écurie Papaye qui a vécu un dimanche tout simplement eh bien, cauchemardesque. Voilà en tout cas pour les quatre enseignements. On fonce tout de suite sur l'actualité, le gros thème Mercedes, avec eh bien justement la guerre entre George Russell et Andrea Kimi Antonelli, la guerre de l'étoile telle qu'on l'a appelée, et surtout un autre titre pour ce tableau qui va vous plaire, c'est George Russell sur le mont tremblant. Bel hommage bien sûr au Canada, et on le doit à monsieur Brice Germain comme d'habitude. Petit récap des faits sur ce week-end, le premier package évolution donc pour la W17E qui est arrivé ce week-end. On s'était un peu moqué d'eux à Miami où ils avaient été les seuls à ne pas apporter justement d'évolution. Le premier package apporté à Montréal leur a permis de retrouver justement eh bien, un net avantage. On a eu le droit à la première friction samedi en sprint, le premier épisode justement de cette guerre Antonelli-Russell. L'attaque d'Antonelli à l'extérieur au virage numéro 1, à l'entrée du Sénat, première touchette. Simple incident de course, la colère quand même à chaud d'Antonelli et les précisions de Toto Wolff qui nous dit samedi, ils sont autorisés à se battre à la dure. On est donc loin des Papaya Rules. Russell-Antonelli, 29 tours d'une incroyable bataille. On se plaignait depuis le début de saison de ne pas avoir eu de bataille à la régulière entre les deux Mercedes. On a été servi hier un mano à mano de près de 29 tours de haute volée, avec parfois quelques erreurs, quelques blocages, mais quel spectacle. Et puis, in fine, à l'arrivée, le 4 à la suite pour Antonelli, mais surtout le coup de bambou pour George Russell, puisque cette bataille a été interrompue par le problème de batterie eh bien, sur la voiture du Britannique. C'est l'image forte de ce week-end. Dépité, miné, on le verra notamment avec des déclats. Si Russell a paru plus serein, bien sûr, dans les batailles, Antonelli semblait, lui, un petit peu plus rapide. Vainqueur en sprint, il se voit infliger un 25-0 par son coéquipier. L'Italien, plein de réussite, faudra le dire aussi, avec des erreurs dans le week-end, mais qu'il ne paye pas très cher. 43 points d'écart dans cette saison, un premier break, mais rien de rédhibitoire pour autant. Ça y est les gars, on a vécu le premier acte de cette guerre chez Mercedes.
Bah, on l'a plus vécu, je trouve, samedi que dimanche, parce que la vraie tension, elle était samedi. Dimanche, j'ai l'impression qu'ils avaient mis les choses au clair et que ils avaient certaines consignes de course, c'est-à-dire vous êtes libre de vous battre dans certaines limites, ça a été pas mal respecté. Quoique, à 30 cm près, on est quand même passé pas loin d'un déboîtage en règle de l'arrière de George Russell par Kimi Antonelli.
Mais la dernière chicane.
Oui, c'est parce que vraiment.
Fois, tu trembles. Hein.
Ah oui,
ça passe vraiment près.
Non, mais le blocage des deux roues avant d'Antonelli, c'est un miracle que ça tape pas l'arrière de George Russell. On l'a un peu vite oublié parce que la bataille a continué derrière. Aussi parce que les pneus soft, bizarrement, désormais, on peut faire 30 plats dessus sans que ça abîme la performance. Je n'ai pas compris. Mais la guerre est lancée. Mais je trouve que c'était quand même plus samedi. Dimanche, ça a été plus propre. Même si, quand même, j'ai trouvé qu'on avait quand même affaire à deux pilotes qui n'étaient pas encore pleinement maîtres de leurs cartes dans les batailles. Je trouve que les pilotages restent un petit peu à la limite, voire dans le surpilotage à certains moments, un peu plus pour Kimi Antonelli. Mais la guerre est bien lancée. Ouais.
Moi, je me suis régalé à voir ces deux pilotes se battre. Et en fait, c'est fou, mais notamment le samedi, tu sens les caractéristiques des deux pilotes entre un George Russell qui a rongé son frein et qui aujourd'hui fait aussi parler son expérience, et un Andrea Kimi Antonelli qui, tu le disais Manu assez justement, semblait plus rapide que Russell, mais sur les instants clés, perd beaucoup, parce que peut-être un aspect psychologique encore encore perfectible pour Antonelli, et je pense évidemment à cette tentative de dépassement. On a vu l'image avec Antonelli qui se retrouve dans l'herbe. Russell, c'est à l'expérience qui vient le pousser. Alors, on n'aura jamais, je crois, la caméra embarquée pour voir le volant de George Russell, s'il pouvait laisser ou non un peu plus de place. Mais très sincèrement, c'est à l'expérience qu'il va le pousser. Antonelli n'était pas non plus totalement devant, parce qu'on dit, on a tendance à prendre des images arrêtées. Sauf que quand tu es à l'extérieur, tu peux emmener plus de vitesse, donc c'est plus facile, entre guillemets, d'être devant. Mais oui, Antonelli avait la place. Oui, Russell l'a joué à l'expérience. Non, pour moi, ce n'est pas sanctionnable, même si je trouve, et ça c'est la partie que j'aime un peu moins, cet aspect politique, je trouve qu'il y a une immense hypocrisie quand d'un côté on demande à Antonelli d'arrêter de parler à la radio, alors que si ça avait été un autre pilote que George Russell, ben là on aurait entendu Antonelli, Toto Wolff, on les aurait tous entendus se plaindre pour demander une pénalité. Alors que finalement, ça reste de la course automobile, c'est du vice, on est allé à la limite de l'acceptable. Il y a eu un contact entre les deux pilotes, quand même, faut le rappeler. Et justement, quand j'évoque cet aspect psychologique d'Andrea Kimi Antonelli, qui n'en est qu'à sa deuxième saison de Formule 1, 1,5 km ou 2 km plus loin, est-ce par agacement, excès de nervosité qui commet cette grosse erreur qui aurait pu lui coûter cher sur cette course sprint, en voulant forcer le passage à l'intérieur, sauf que c'est l'endroit où il n'y a absolument pas de grip, il bloque ses roues et là aussi il traverse encore une fois l'air. Donc sincèrement, moi, cette bataille, c'est une opposition de style. Chacun a ses forces, chacun a aussi ses faiblesses, et c'est le début d'un duel qui pourrait nous tenir en haleine, je pense, assez longtemps.
Ce qui est assez fou sur ce week-end, les gars, c'est, on va parler de George Russell dans quelques instants, et je vous mettrai des déclats de Toto Wolff aussi sur la bataille autorisée, parce que c'est pas très clair. Il a eu quelques discours un peu dissonants. On a aimé quand même ce week-end le culot de Andrea Kimi Antonelli. La vraie question même qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il peut rester, combien de temps il peut rester encore dans cette insouciance-là, parce que on l'a senti complètement libéré. Il a commis des erreurs, mais quelque part, il a énormément de réussite depuis le début de cette saison, parce que ça lui coûte pas grand-chose. Et derrière, il est allé agresser. La tentative, tu parlais du dépassement, la tentative qu'il fait en sprint, il y a la volonté un peu de soumettre George Russell, il y a la volonté de rentrer un peu dans son cerveau, de lui faire du mal.
Il le sera tant que dans son mindset, il n'entrera pas dans son baquet en se disant « il ne faut plus que je perde des points, j'ai trop à perdre », comme ça peut être été le cas pour Oscar Piastri la saison dernière. Tant qu'Antonelli, parce qu'il reste quand même 16-17 Grands Prix, officiellement, peut-être qu'il y en aura plus s'ils parviennent à remettre l'Arabie Saoudite et Bahreïn sur la fin de saison. Mais pour l'instant, Antonelli, il est aussi, je trouve, dans cet état d'esprit, parce que c'est un début de saison et parce qu'il est sur une bonne série. Mais le jour où peut-être il va vouloir commencer à calculer, ça pourrait lui coûter plus cher.
Non, puis aussi, pour le moment, les éléments sont quand même particulièrement en sa faveur aussi. C'est-à-dire que la vitesse pure, il l'a en piste. Mais ce qui s'est passé hier, George Russell qui, du coup, aborde Michel, on va dire, qui peut te dire que cette insouciance ne les mène pas au crash 10 tours plus tard ? On l'a frôlé samedi, on l'a frôlé dimanche en début de course. Et à un moment donné, où ce pilotage-là, en interne, ça peut quand même cristalliser et Toto Wolff peut dire à un moment donné stop. Je pense que, comme à chaque fois en F1, cette insouciance s'arrêtera au moment où Antonelli commettra une grosse bêtise. Et que la grosse bêtise, il l'a déjà créée avec Max Verstappen l'année dernière. Il l'avait déjà créée, je ne sais plus avec qui, avec Charles Leclerc également à Zandvoort. Mais le jour où ça se passera en interne et que Toto Wolff s'en chargera, parce que c'est facile de dire au début, mais c'est un jeune, il fait des erreurs de jeune, et tout le monde le défend. Max l'a défendu, Charles, je ne suis pas sûr qu'il l'avait défendu à l'époque, mais en même temps, Max ferait tout pour défendre l'opposé de Russell, donc quelque part. Mais
ça lui coûte un titre hein, quand même. Il l'a défendu alors que ça lui a quand même coûté le titre.
Il
aurait pu ne pas le faire.
Non, mais il le fait à ce moment-là. Il le fait en juillet quand il pense qu'il n'y a pas de titre à jouer. Il ne va pas le faire en fin d'année. Mais tout ça pour dire que oui, on a quand même une opposition de style qui fait qu'à un moment donné, pour Mercedes, le pilotage d'Antonelli, aussi rafraîchissant soit-il, peut poser problème dans l'image que veut proposer. Mercedes. Alors, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire de Max Rull.
Alors, si, oui,
vous
justement, bah, j'ai les déclats. Regarde, ça, c'est assez incroyable. Je vous disais, il y a une petite dissonance par rapport au discours de Toto Wolff tout au long de ce week-end sur le fait qu'il soit autorisé ou pas. Samedi, donc, après la première friction en sprint, il y a une réunion au sein du board de chez Mercedes et Toto Wolff arrive au micro de Sky Sports pour expliquer ceci. Il dit : nous les avons réunis et nous avons dit comment voulons-nous courir ? Est-ce que nous courons contre la voiture sœur comme n'importe quelle autre voiture, ce qui me va, ou est-ce que vous voulez laisser de l'espace, ce à quoi je ne m'attends pas, parce qu'au fond vous courez pour gagner et pour un championnat. Ils savent comment pousser, mais dans tous les cas aucun des deux ne s'attend à ce que l'autre laisse de l'espace, parce que c'est trop important. Les règles sont en place maintenant, c'est un cadre qu'ils ont défini entre eux et nous en sommes satisfaits. Ils peuvent courir durement entre eux, c'est la philosophie Max qui a été choisie. Donc ça, c'est les propos samedi. Et dimanche après la course, on repose la question à Toto Wolff après cette bataille de 29 tours. Et là, quand même, la réaction et la réponse de Toto Wolff, cette fois-ci à la F1 TV, est quand même un peu nettement différente. Il dit : on a pris un certain plaisir à les regarder se battre. Chaque fois qu'on pensait dire ça suffit pour le moment, les deux tours suivants étaient à nouveau rapides. Il y a deux fois où j'étais prêt à intervenir en disant qu'on ne doit pas se battre comme ça car les deux perdaient beaucoup de temps et Verstappen revenait trop près. C'était tout juste acceptable par moment. 10% de bataille en moins, ça aurait été mieux. On doit voir la course et juger si on peut continuer comme ça. Moi, j'arrive plus à comprendre ce qu'il nous dit, Toto Wolff.
C'est très simple. Là, il est en train d'installer dans la tête de tous les observateurs qu'il va y avoir ces prochaines semaines des consignes d'équipe ou en tout cas des consignes pour interdire les batailles, notamment potentiellement, on est encore sur ce fantasme, enfin qui pourrait ne pas être un fantasme, lorsque Ferrari bénéficiera de ce nouveau moteur, lorsque les autres concurrents se rapprocheront. Il est juste en train de nous dire, aujourd'hui on se régale, mais il est possible que dans quelques semaines, on intervienne.
Parce que depuis le début de saison, ça leur coûte rien en points, mais en seconde, ça leur coûte. Hein. C'est-à-dire que tu vois qu'il n'y a pas de conséquences à l'heure actuelle, mais si au début de la course, Max reste à 5-6 secondes, c'est parce qu'ils s'envoient pêche sur pêche, les deux. S'ils ne s'envoient pas ça, ils s'envolent. Le rythme est foncièrement 4-5 dixièmes meilleur sur la course par rapport à la Red Bull. Allez, peut-être 3, si on veut être gentil. Mais ils s'envoient tellement des quiches que c'est obligé qu'à un moment donné, l'écart se maintienne. Si on fait ça avec un châssis tel que la Ferrari et une évolution moteur, comme l'a dit Hamza, qui va arriver au milieu de l'été...
Dès l'Autriche.
Dès l'Autriche, ils ont avancé, d'accord.
Dès l'Autriche, je crois, je sais plus qui a dit ça, un influenceur, un journaliste...
Insider,
j'ai entendu, ouais.
Donc l'Autriche est dans un mois et demi.
Exactement, ça vient vite.
Bah là, il y a Monaco, Barcelone, puis l'Autriche.
Mmh. Voilà. Donc
il reste deux Grands Prix.
Quand tu sais que Charles Leclerc est à 13 points de George Russell, ce qui est miraculeux au vu du début de saison, de Ferrari et de George Russell qui est censé quand même être un peu plus haut, bah oui, oui, je comprends qu'on puisse quand même installer un climat de amusez-vous, mais à un moment donné, en fait, si vous n'êtes pas capable de performer pour l'équipe, vous allez vous prendre la loi de l'équipe.
Et puis samedi, on l'a vu notamment avec Norris, hein, qui a réussi à s'intercaler entre les deux, alors que lui dit qu'il n'avait pas le rythme, en tout cas pour les suivre. George Russell, les gars, faut qu'on en parle, parce que bon, hier, cet abandon, il y a eu la bataille, on l'a trouvé assez marqué. Il y a surtout cette déclaration à The Race, hier à l'arrivée, après son abandon, après avoir jeté son appui-tête, après avoir fait la tête, et on l'imagine en tout cas, regardez ses concurrents passer. George Russell nous dit, ça y est, je n'ai plus aucune pression, je vais faire la suite de la saison en profitant de toutes les courses possibles. Actuellement, c'est son titre, en parlant d'André Hakimi Antonelli, et c'est à lui de le perdre. J'ai l'impression que les dieux ne veulent pas que je sois dans ce combat.
Un peu trop grossier.
Comment on interprète ça, les gars? C'est une réaction à chaud, c'est-à-dire qu'on comprend la déception à chaud du compétiteur qui va se remettre bien sûr dans le bon sens pour la prochaine course, ou pour vous c'est trop défaitiste? Il a été beaucoup attaqué sur les réseaux.
C'est Antonelli, c'est un message pour Antonelli.
Voilà, à chaud je tombe dans le panneau.
Ouais.
À chaud je tombe dans le panneau. Quand on la voit hier soir, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi ça? Surtout qu'en plus t'as un exemple récent d'Oscar Piastri qui met un 25-0 à Lando Norris à Zandvoort, donc on est début septembre, on n'est pas en mai.
Ouais, mais rappelle-toi, même à Montréal, hein.
Ouais, il n'est pas un 25-0.
Ah oui, il gagne pas de raison.
Il met un 15, je crois, 0. Oui, oui. Oui, parce que c'est doublé Mercedes.
C'est vrai, t'as raison, j'avais oublié.
Donc c'est pas tout à fait pareil, et encore, c'est la faute de Norris. Donc quelque part, là il n'y peut rien, le pauvre Russell, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais c'est intolérable de dire ça. Et derrière, en fait, aller regarder les déclarations de Lando Norris après Zandvoort, l'année dernière, c'est quasiment mot pour mot les mêmes. À Oscar Piastri. C'est-à-dire qu'en fait, Kimi Antonelli, là, ça fait quand même deux GP que je trouve que ça se voit qu'il a la pression.
Tu trouves ça se voit? Moi j'ai trouvé plus détendu, que ça soit face aux médias ou dans la voiture, je trouve comme j'ai tout à l'heure culot.
Dans la voiture, je trouve que ça se voit.
Ouais.
Parce que je trouve qu'il pilote de façon très agressive. Il pilotait déjà de façon très agressive. Moi je trouve qu'avec Russell, il pilote d'une façon encore différente maintenant. En tout cas, je l'ai vu ce week-end. Je trouve qu'il fait quand même encore des erreurs qu'il faisait pas forcément en fin de saison dernière. C'est-à-dire que là, je trouve qu'il est vraiment à la limite de chez limite, pour notre plus grand plaisir et le plus grand plaisir des yeux. Je ne peux pas lui demander d'arrêter. Mais Toto Wolff peut peut-être lui demander d'arrêter. Et moi, le comportement qu'il a samedi en sortie de sprint, le comportement qu'il a dimanche sur la grille, les caméras sont longtemps restées sur lui, je le trouve pas super serein. Dans la voiture, il fait un taf qui est merveilleux, et y a ces moments où de petits déblocages quand même dans la tête. Moi, je pense qu'en faisant ça, George Russell remet une couche de pression à Kimi Antonelli. Dire à un gamin de 19 ans, alors que c'est le numéro 2 de l'équipe, c'est son titre, c'est à lui de le perdre après 5 courses, ouais. c'est lunaire. C'est fait pour que Antonelli tombe dans le panneau de dire ouais, c'est vrai que c'est mon. Enfin, là, j'ai quand même la voie royale. Et au final, l'année dernière, les choses ont été renversées alors qu'il restait 8 ou 9 courses. Là, il en reste le double. Donc, il sait très bien que c'est pas mort. Il sait très bien que c'est pas fini. Il y a 43 points d'écart concrètement. Le problème qu'a eu Russell, Antonelli peut l'avoir. Surtout que c'est un problème complètement moteur. Donc, non, c'est une décla qui est là pour jouer d'armes autres que celles de la piste.
Plus de 43 points d'écart. Il y a Vettel qui a réussi à remonter Alonso en 2012, 44 points.
Fait mal ça, hein.
Et 2022, Verstappen sur Leclerc, il y avait 46 points d'écart.
Ouais, mais à 3 courses.
Il y avait beaucoup moins de courses encore à disputer. Moi, là, pour moi, la déclaration de Russell, je n'en prends même pas.
Après, là compte. Où. Là
à
où
voiture je... différente, pour le coup, sur les deux cas que tu as donné.
Oui, mais là où c'est compréhensible, entre guillemets, si on veut essayer de trouver une légitimité à ce que dit Russell, c'est que est-ce que Russell aura autant d'occasions de mettre des points après que les moteurs. Enfin, que les autres écuries aient introduit un nouveau moteur? Peut-être pas. Peut-être que justement, ça va se lisser un petit peu, que d'autres vont entrer dans la bagarre, comme on disait à l'époque où Lando Norris voulait aller chercher le titre à Max Verstappen.
Alors justement, moi, je le vois plutôt comme une opportunité pour Russell.
Ah, de faire
lui
des gros écarts.
Il aura la possibilité de mettre 25 points, et Antonelli, par exemple, un week-end à 6 points.
En attendant, pour le moment, ça fait, sur les 5 Grands Prix qui se sont passés, il y en a 4 où le rythme, c'est Antonelli qui l'a. Hein.
Oui, mais après, pour moi, il reste 17 Grands Prix.
Ah oui, ça peut changer, bien sûr.
Ça n'a aucun intérêt, je trouve, de débattre sur si une déclaration qui est juste une déclaration. Même lui n'y croit pas.
C'est bien interprété. C'est bien interprété aussi, parce que
c'est trop gros, en fait. Ça fait que 5 courses. Pour moi, c'est beaucoup trop gros. C'est comme si... Même Antonelli, je suis pas sûr qu'il tombe dans un piège aussi grossier, quoi.
Ouais, c'est une manière de dire maintenant c'est toi le chassé, c'est moi le chasseur, et essayer d'inverser bien sûr la vapeur. Toto Wolff justement confirmé ça sur Canal Plus hier. Il dit il reste 17 courses à disputer et tellement de points à marquer que la lutte ira jusqu'au bout avec, je l'espère, nos deux voitures dans le coup. Il dit Georges doit grignoter son retard, il va se ressaisir, j'en suis certain. Ce n'était pas de sa faute aujourd'hui.
Juste, Brice tout à l'heure évoquait l'agressivité d'Antonelli par rapport à Russell. Moi notamment, pourquoi je me suis régalé sur cette course, et là je parle de la course du dimanche, c'est qu'il y avait une sorte de persévérance chez Antonelli de se montrer dans les rétroviseurs, oui, à droite à gauche, pour essayer de provoquer l'erreur de Russell. Alors Russell, évidemment, n'est pas tombé, mais tu te dis que lui a réussi, sans commettre d'erreur, à rester extrêmement proche, à rester dans des zones qui ne sont peut-être pas aussi si agréables pour les pilotes. On évoquait tout à l'heure cette fameuse dernière chicane. À un moment, ça peut aussi toucher. À chaque fois, on est à quelques centimètres. À chaque fois, ça passait. Un jour, peut-être que ça ne passera pas. Mais là, tu sens quand même une persévérance chez Antonelli sur ses attaques pour mettre là une pression constante sur George Russell. Et je le disais tout à l'heure, en même temps, une certaine immaturité par rapport à ce que l'on a vu en course sprint, à partir du moment où, dans la tête...
Il est débloqué.
Exactement. Donc, on sent qu'il y a une marge de progression, mais en même temps... ce côté pur racer, franchement, j'ai vraiment apprécié son
week-end. C'est Ryan Cherki, Anthony. C'est Ryan Cherki il y a 2 ans.
Ryan Cherki de la F1.
Mais blague bon à part, ça a attaqué comme ça. Quel plaisir de retrouver des F1 qui attaquent.
Hein. Oui, oui, oui.
Parce que moi, samedi, autant on était dégoûtés à Melbourne, samedi, j'ai trouvé ça régal. Et hier, j'ai trouvé ça régal. Quand je vois les caméras, alors les caméras murales, elles aident. Hein.
Ah ouais.
Mais quand tu les vois qui perdent l'arrière à chaque virage,
au mur des champions,
je suis désolé, mais c'était plus beau que beaucoup de courses des 2-3 dernières années en termes de sensations à l'œil de pilotage.
Ouais, mais c'est Montréal. En fait, Montréal, j'ai l'impression.
Ah, c'est le cheat code un peu. Ouais.
C'est comme si je te disais Interlagos, on prend du plaisir. Mmh. Oui, bah, Interlagos, on prend toujours du plaisir.
Non, mais on prend du plaisir, même avec cette génération de voitures.
C'est pour ça que je préfère attendre les prochains Grands Prix pour voir si définitivement ces modifications ou pas ont aidé.
Il y a 6 mégajoules de récupération alors que c'était 8 au début de saison. Donc,
c'est le tracé où tu peux le moins recharger et le plus déployer. Donc, quelque part, on aurait dû voir justement une certaine limite au niveau des batteries, et peut-être que la nouvelle réglementation a aidé. Bref, on verra.
Après, les gros freinages aident aussi à récupérer. Exactement. Il y en a quand même pas mal.
Tiens, vous voulez parler d'un gros freineur, les gars ? Étonnant, parce qu'il y a un an, il se plaignait de ses freins, et pourtant, il nous a régalé. C'est le deuxième enseignement, justement, de cette émission. C'est monsieur Luigi Hamilton. Faut plus l'appeler Lewis, ni Lewis. C'est Luigi, bien évidemment, son nouveau blaze. Le retour du King Lewis. Une approche un peu différente ce week-end. On l'avait laissé moribond à Miami après son crash avec Colapinto et sa voiture meurtrie. Lui a changé son fusil d'épaule. Pas de préparation au simulateur. On sait qu'il n'aime pas cela de toute manière. Et il soupçonne un problème de calibrage, justement, du côté de chez Ferrari. Il a opté pour une approche plus analytique avec ses ingés. Ils ont travaillé sur les freins, sur les entrées de virage, sur l'équilibre mécanique. Il a été pourtant beaucoup plus rapide et dès le début de ce week-end, dès le vendredi. On rappelle que Ferrari n'apportait pas d'évolution ce week-end, contrairement à d'autres équipes bien sûr de ce top 4. Autre confirmation pour Lewis Hamilton, il l'a dit en début de week-end, il sera bien en F1 en 2027 au sein de la Scuderia. Il y a eu des rumeurs pendant la pause d'un Lewis Hamilton qui annoncerait sa retraite du côté de Silverstone, démenti formel. Il a même été très rassurant, nous disant « Je me sens enfin moi-même dans cette voiture. » Et ça, c'est vu. La stratégie parfaite en course, le dépassement sur Verstappen, l'arrêt parfait lors du déploiement, bien sûr, de la Virtual Safety Car, le double stack chez Ferrari qui réduit l'écart avec Verstappen. Il était de 5 secondes à ce moment-là. Il avait fait une erreur qui lui a coûté cher, justement, sur le premier relais lorsqu'il pourchassait bien le Néerlandais. Il nous a offert un deuxième relais de folie. C'était lui le plus rapide, tout simplement, en piste. Et le dépassement, bien sûr, sur Max en prime à l'extérieur au virage numéro 1, son deuxième podium cette saison, son meilleur résultat surtout chez Ferrari, et qui tranche forcément avec le week-end cauchemar de Charles Leclerc, l'un de ses pires week-ends en carrière en F1 selon ses propres dires samedi. Aucune sensation, des soucis lui pour le coup avec les freins, des soucis dans l'optimisation des pneumatiques, piégé aussi dans le double stack de Ferrari, notamment avec une place de perdu dans la bataille avec Isaac Hadjar. Les gars, on se posait la question après la Chine. Est-ce que le roi est de retour? Et j'ai l'impression que le Canada nous offre quand même une esquisse et une réponse quand même un petit peu plus marquée, même si on sait qu'il aime se tracer.
Bah, il serait chez Cadillac à Montréal, qui serait capable de faire une bonne performance et de rentrer dans les points. Donc c'est vrai que Montréal, ça a toujours été un peu son circuit fétiche à Hamilton.
Ah, pas que, il y a certaines étapes effectivement. La Chine, c'est pas pour rien qu'il performe l'année dernière et cette année, c'est que c'est des circuits qui le marquent, et j'ai quand même la sensation que arrivé à cet âge-là, l'aspect mental du « ah, j'apprécie là où je suis » et au vu des dernières saisons qui se sont passées, ça donne quand même un surplus de motivation et de confiance. La confiance, ça a été quand même l'élément clé des deux performances chez Ferrari ce week-end. Charles en total manque de confiance et un Lewis d'un autre côté qui lui fait corps avec la voiture et qui l'emmène certainement plus loin que ce qu'il l'a jamais emmené depuis le début de saison. Donc du coup, le résultat est forcément très éloigné l'un de l'autre. Mais ce que j'ai vu de Lewis Hamilton là, même dans les bonnes performances qu'il a faites depuis qu'il est chez Ferrari, moi je l'ai jamais vu. De la FP1 au dernier tour de course, il a été magistral. Toute la course, il fait des meilleurs secteurs 1, meilleurs secteurs 1, meilleurs secteurs 1. Et c'est le seul endroit où la Ferrari, elle peut justement montrer sa valeur. Bah, sa valeur, elle est là, c'est le meilleur châssis du plateau. Et Lewis Hamilton le montre, chose que Charles Leclerc n'était pas capable de faire. Charles Leclerc est arrivé à Montréal avec un manque de confiance, même avant de monter dans la voiture. Lewis Hamilton est arrivé avec de la confiance avant même de monter dans la voiture. C'est resté tout le week-end. Et quand t'as qu'une heure d'essai, ça marque sur tout le week-end. Ce qu'a fait Lewis Hamilton, c'est aujourd'hui arriver avec un mental prêt qui s'est d'ailleurs retrouvé sur une performance magistrale en voiture.
Tu parles du meilleur secteur, je ne sais plus si c'est en qualification ou en qualification sprint, mais le premier secteur de Lewis Hamilton, c'est quasiment 2/10 de mieux que le suivant. Il a trouvé un raccourci.
Non mais déjà, il arrivait à monter sur les vibreurs sans que ça pose problème. Donc, tu sais, quand tu coupes un petit peu à Montréal, tu t'emmènes quand même beaucoup plus de vitesse, parce que c'est beaucoup de virages, justement, il faut enrouler et les vibreurs sont un peu plus dérangeants. C'est un des premiers à avoir vu que le virage numéro 1 pouvait se passer différemment avec l'abaissement des vibreurs. Il l'a utilisé. Et derrière, quand tu vois sa manière de freiner, il emmène énormément déjà de récupération d'énergie dans le frein. Et ensuite, il ressort, il laisse beaucoup couler la voiture. Les deux seuls qui ont fait ça, c'est Antonelli et Hamilton. Les deux seuls qui vont vraiment emmener beaucoup de vitesse comme ça, c'est eux deux. Ils ont visiblement compris quelque chose que leurs coéquipiers n'ont pas compris. La seule différence, c'est que Charles, lui, de son côté, avait rien en termes de frein, en tout cas pas de feeling en termes de frein. Et ça se sent à la fin, quoi.
Moi, ce que je trouve intéressant, les gars, c'est... Alors, on l'a dit, on ne va pas se formaliser sur ce podium. On l'a dit, il y a la circonstance Montréal, un circuit où il est plutôt à l'aise. Mais quand on regarde comment il a construit la performance là ce week-end, on l'a dit, l'approche radicalement différente. On met de côté le simulateur. Et d'ailleurs, Leclerc a passé du temps au simulateur. On a vu qu'il avait des problèmes pour optimiser les freins, les pneus. Donc peut-être que ce qu'a perçu Lewis Hamilton sur le manque de corrélation entre le simulateur et la piste, bah peut-être qu'il est dans le vrai grâce à ça. Et on se rappelle d'un Lewis Hamilton l'année dernière qui nous avait expliqué qu'est-ce que j'ai du mal à m'adapter à ses freins. Lui qui avait travaillé avec une autre marque de freins, on va dire, toute sa carrière. Et là, c'est sur un circuit de freineur qu'il a réussi justement à construire cette performance, à livrer aussi des dépassements qui sont plutôt très très forts. Tu parlais de la construction mentale, j'ai même envie de dire que dans la méthodologie, dans l'approche, on a retrouvé un Lewis Hamilton absolument cannibale.
Alors, moi, ce que j'ai vu en FP1, pour moi, ça a conditionné le week-end des deux. Ce que j'ai vu en FP1, c'est deux pilotes qui commencent le week-end de la même manière, à savoir une grosse difficulté à aller chercher la bonne fenêtre de température, une grosse difficulté à aller chercher les points de corde avec une monoplace qui pourtant a un bon châssis, donc une difficulté à trouver le bon point de frein et la bonne température des pneus sur l'ensemble du tracé. Et si tu regardes la FP1 de Lewis Hamilton, plus ça va, plus il fait des erreurs. Il fait beaucoup d'erreurs, il rate beaucoup de cordes, il part en snap à la sortie du mur des champions, il est un peu en galère, mais plus ça va et plus il va chercher des limites. Ok, là ça passe pas, etc., etc. À la fin de la FP1, j'ai quand même le sentiment qu'il a trouvé à peu près son rythme, et dès lors qu'on part en qualification, il y a un truc où il sait comment aller chercher la vitesse. Il va débloquer quelque chose qui, du côté de Charles Leclerc, a été cristallisé. Si tu reprends les débuts de FP1 de Charles Leclerc, il fait les mêmes choses donc que Lewis Hamilton, sauf que derrière, il perd totalement la confiance en la voiture. Il se met à freiner plus tôt, il se met à fermer son aéro active plus tôt, à la réouvrir plus tard, il réassoit la voiture avant de le faire. Et en fait, à partir de là, c'est tout un week-end qui prend une direction totalement opposée. totalement opposés. Donc oui, la construction du week-end, elle s'est peut-être fait effectivement avec cette absence de simulateur où Lewis a peut-être donné davantage on va dire de confiance à son propre ressenti plutôt qu'au calcul des ordinateurs. Mais à la fin de la FP1, on a vraiment deux directions complètement opposées dans le week-end mentalement. Et je vois pas d'autre explication que ça. Mm-hmm. Parce que derrière, ça donne, hein, Lewis fait du 15-0, Brian, ferme-la. Mm-hmm. Parce que c'est plus possible. Il n'y a plus la confiance.
Hamza, ton avis sur le week-end de Luigi Hamilton.
Non, mais Brice a raison et je le rejoins. Encore une fois, moi, j'aurais tendance à émettre une réserve dans le sens où ça fait partie de ces circuits où il a généralement toujours performé. Donc moi, ça me fait plaisir de retrouver Hamilton à ce niveau-là. Tu sens que lorsqu'il a une totale confiance en sa voiture, c'est un Hamilton... Enfin, moi, effectivement, je ne l'ai pas vu. C'est son meilleur week-end chez Ferrari. Oui, sur l'aspect comptable, mais aussi sur l'impression qu'il laisse. S'il avait terminé quatrième parce que Verstappen terminait troisième et parce que Russell terminait la course, je pense qu'on aurait eu quand même le même ressenti et le même bilan. J'aurais tendance à attendre Monaco qui va forcément apporter beaucoup de réponses parce que c'est une course à domicile pour Charles Leclerc. Quand je dis domicile, pas parce que c'est chez lui, mais parce que c'est une piste où il a toujours réussi à extraire de la performance, même s'il y a eu cette longue série, cette malédiction qu'il a poursuivi notamment en course. Mais sur un tour, il est capable d'aller chercher des zones que personne ne va chercher. On sait que Ferrari est très attendu parce qu'ils seront normalement les grandissimes favoris de par la conception de leur monoplace à Monaco.
Avec Red Bull, je pense. Mais...
J'attends beaucoup de Lewis Hamilton à Monaco. Et là, je pense qu'on pourra avoir une réponse un peu plus affirmative sur une potentielle dynamique et sur peut-être le... Je ne vais pas dire le début de l'histoire Hamilton chez Ferrari... Mais les conséquences de ce travail de quasiment 18 mois maintenant au sein de la Scuderia.
Surtout que, perso, si je dois chercher une performance pareille de Lewis Hamilton, je remonte à Silverstone 24. Mais encore une fois, on n'a pas eu tous les problèmes dans la tête qu'il a eu sur la voiture qu'il avait, etc. Mais c'est ce qui me revient en tête.
T'as raison.
Les performances de Lewis Hamilton, malheureusement, depuis 2 ou 3, voire 4 ans, 3 ans on va dire, sont assez sporadiques, c'est à dire qu'on a jamais vu, si ce n'est 2023 éventuellement, et encore il y a eu des moments de creux dans 2023, on n'a pas pu dire que Lewis Hamilton a lancé sa saison et
non, c'est que des épiphénomènes en fait, ouais.
Et du coup c'est vrai que ça serait dommage de ne pas le voir faire ça avec Ferrari, mais malheureusement c'est aussi quelque chose qu'on peut attendre que ça soit un épiphénomène. Là où Hamza a raison, c'est que Monaco est l'endroit parfait pour Leclerc pour rebondir et aussi l'endroit parfait pour Hamilton pour confirmer au vu des caractéristiques de la Ferrari.
Quelques déclats justement à l'arrivée de cette course. On va commencer avec Lewis Hamilton. Il est en conférence de presse et il déclare ceci: l'optimisme du septuple champion du monde. L'équipe a travaillé dur, on a des nouveautés qui arrivent. Je considère que c'est un circuit de ligne droite et on a réussi à tenir. Donc ça me donne de l'espoir pour la suite, mais on doit continuer à tout donner. J'espère pouvoir continuer sur cette lancée. Je suis beaucoup plus à l'aise et heureux dans la voiture. J'ai retrouvé mes sensations d'antan. Être aux avant-postes et avoir livré une belle bataille avec Max, c'était génial de se battre avec l'un des plus grands. Ça, c'est un moment que sans doute les gens n'ont pas vu parce que tout le monde n'a pas accès à la conférence de presse. Il y a eu un moment franchement d'émotion, moi, je trouvais hier quand on regardait cette conférence de presse, avec un respect de dingue et presque une allégeance d'Hamilton vis-à-vis de Verstappen et de Verstappen vis-à-vis d'Hamilton. J'ai adoré ce moment.
J'ai rarement vu une cool room aussi, comment dire, avec un respect des trois les uns pour les autres et un sourire, tout le monde heureux de sa course. Peut-être que c'est parce qu'ils ont pu aussi attaquer et que du coup ils ont peut-être moins senti la réglementation, enfin il y a peut-être d'autres paramètres justement. Je sais pas, il y avait un truc, Hamilton Verstappen apaisé, mais quand on dit apaisé c'est genre bravo mec. Et pour tout le monde, t'as fait une course de zinzin.
Mais j'avais même
toi aussi, t'as fait une course de zinzin.
J'avais même le sentiment, tu sais, deux mecs qui sont contents d'avoir bataillé l'un contre l'autre et qui se disent, bah, il n'y en aura peut-être pas tant que ça, en fait, des occasions à l'avenir. Tu sais, ça rappelait, alors, bah, je ne l'ai pas vécu, mais on l'a lu dans les livres, ça rappelait un petit peu, tu sais, la fin de carrière de Alain Prost et Ayrton Senna, tu sais, qui avait adoubé justement son éternel rival. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez mystique, en tout cas, hier.
Il le dit, je crois, c'est en zone mixte aussi, où il le dit, Hamilton, sur ce plaisir qu'il a eu de se battre face à un champion du monde tel que Max Verstappen.
C'est énorme en tout cas ce qu'ils nous ont proposé. Juste une petite déclat, les gars, de Charles Leclerc, vous en avez parlé tout à l'heure.
Excuse-moi, vas-y. Non, sur Hamilton, j'ai oublié, je crois qu'il le dit en cool room, il a failli débuter la course en course en pneu intermédiaire.
Oui, ils ont changé au dernier moment.
Ça aurait changé beaucoup de choses.
Peut-être pas eu le même.
On l'aurait peut-être mis en quatrième enseignement, de héros à crétin.
Mais, non, mais par contre.
Peut-être que Loïc Duval lui a parlé aussi.
J'aurais bien aimé, alors je préfère évidemment ce résultat et ce rendu de course parce qu'on voit ce que ça peut donner à Hamilton à 100% avec 100% de sa monoplace, de l'exploitation pneumatique. Mais j'ai aussi la curiosité de me dire, est-ce qu'il aurait aussi galéré que les deux McLaren et surtout Oscar Piastri s'il avait débuté en intermédiaire, qu'il s'arrête rapidement, il doit remonter. Mais bon, je préfère quand même ce résultat.
C'est sûr et certain. Ouais.
C'est sûr qu'avec un moteur tel que celui de la Ferrari, il aurait eu beaucoup plus de problématiques à remonter facilement, je pense, que la McLaren. Parce qu'au final, faire 2 et 4 pour Ferrari, c'est assez miraculeux au vu du fait que cette Ferrari, malheureusement, et on n'en parle pas assez parce que les autres écuries se foirent davantage qu'eux, mais elle est relativement inoffensive dans l'attaque.
À cause de sa vitesse de pointe.
Mais c'est ça. Et il le dit à un moment donné, je sais pas si j'ai pas de moteur ou si on a une traînée de dingue. Il le dit à Max Verstappen. Et Max, dans la ligne droite, il lui reprenait. Mais, parce que Lewis, il était à moins de 5 dixièmes à la sortie de l'épingle. Il passait pas. Max, il était à 8 dixièmes. Il arrivait à la chicane. Il était à deux doigts d'aller poser un frein. Et quand c'est Max, tu te dis qu'il peut le poser, le frein.
Bah, il l'a posé au premier virage. Hein. Son premier dépassement, il vient de loin, Verstappen sur Hamilton.
Il est magnifique, d'ailleurs.
Et bah, celui d'Hamilton sur Max, il est extraordinaire.
Ouais, complètement.
Après, il y a une préparation différente.
De la batterie aussi, ouais.
Exactement.
Oui, parce qu'au final, il recharge énormément pendant le tour. Mm-hmm. Et je pense qu'il surprend Max en déployant moins dans la ligne droite, en passant la chicane avec un petit peu de récupération et en déployant plus dans la seconde.
Mais preuve que le travail en tout cas de Ferrari pour réduire la traînée en attendant les évolutions moteurs semble avoir quand même porté certains fruits.
Donnez-lui
un moteur. Ouais, c'est ça, c'est la vignette du jour.
Mais déconnez pas parce que si y a un moment.
Ah oui, on attend que ça maintenant.
Enfin, là, Ferrari, s'ils ont un moteur, ça va faire mal. Hein.
Bah, c'est ce qu'il dit à peu près dans la déclaration qu'on a vue tout à l'heure. Hein. C'est genre, avec tous les problèmes moteurs qu'on a, sur un circuit justement qui fait la part belle à la pointe, lui est optimiste. En tout cas.
Ça fait 5 secondes, il a un sourire, il attend juste l'arrivée de ce moteur, Brice.
Ouais, grave.
Mais la duo, crois pas.
On a toujours été duo ici.
On a toujours été
casquette, la duo.
On a toujours été déçus par Ferrari. Arrête.
Attends, c'est pas parce qu'ils ont le droit de travailler sur le moteur qu'ils vont pondre un truc bien.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Mais bon,
attendons de voir.
La duo, ça peut autoriser un débitmètre un peu plus large.
On sait que ça fait partie de l'ADN récent, contemporain de
ça, Ferrari. Ça, il sait faire.
Très bien faire. Charles Leclerc, tu parlais de miracle. Juste une dernière déclat pour refermer cet enseignement. Il disait, parce qu'il a dit samedi, c'est l'un de mes pires week-ends, bien sûr, en carrière en F1. Il dit, je garde mes mots d'hier car je n'ai jamais trouvé la solution pour mettre les pneus dans la bonne fenêtre. J'en prends la responsabilité car ce n'est pas la voiture. On a la même voiture, à part quelques réglages avec les WIS, mais ça ne change pas la performance. Montréal a toujours été une piste qui n'était pas top pour moi, mais pas à ce point-là. Je suis content de finir la course. Être quatrième sur un week-end cauchemar comme celui-là, c'est un miracle.
Lui aussi, il avait un sourire de dingue à la fin parce qu'il était dithyrambique sur le fait de. Pas dithyrambique, pardon. Il était.
Très négatif.
En fait, il disait énormément ce qu'il n'allait pas, mais avec un sourire de fou. Genre, ah ouais, c'était cata. C'était horrible. J'ai fait un week-end de merde. en même temps, quand tu prends 12 points sur un week-end de merde, je comprends que.
Ça rattrape un petit peu les choses. Troisième enseignement, les amis. Red Bull, pas mal pour un tronc d'arbre. Point d'interrogation, même d'exclamation. Red Bull avec ce week-end référence très clairement pour l'écurie autrichienne, un premier podium, sa meilleure moisson aussi, premier podium pour Verstappen cette saison, 27 points pris ce week-end, troisième équipe à avoir le plus scoré, beaucoup de circonstances favorables, il faut quand même le préciser, on y reviendra tout à l'heure, mais l'erreur du choix de gomme chez McLaren au départ, les départs compliqués aussi chez Mercedes et la panne de batterie de George Russell, un meilleur rythme en course globalement pour les deux voitures et un Isaac Hadjar qui n'était pas largué, une Red Bull qui a semblé plus proche de Ferrari du top 3 ce week-end, un Verstappen beaucoup plus à l'aise, un Isaac Hadjar qui n'est pas lâché. Sans les pénalités d'ailleurs, Isaac aurait d'ailleurs pu finir dans le tour d'Antonelli. On rappelle que seules 5 voitures l'ont fait quand même hier, c'est assez choquant. Verstappen qui nous a fait le coup des réglages, des désaccords importants ce week-end entre Max et son équipe sur l'approche des réglages à adopter. En qualification, il n'a pas compris justement comment il a pu sortir un dernier run en P6. Il le dit d'ailleurs lui-même, il a volontairement laissé l'équipe prendre la mauvaise direction. Ça allait mieux quand même ce dimanche, on l'a vu, avec plus de rythme. Et puis des progrès, mais attention, gare au trompe-l'œil, les amis. Attention à ne pas écarter aussi la théorie, bien sûr, de l'épiphénomène Montréal. On le rappelle, un tracé sans virage rapide, ce qui est le point faible de cette RB22. Que vous inspirez, les gars, ce week-end côté Red Bull?
C'est plus la performance du moteur, moi, qui me fait peur pour eux, parce que s'ils sont à cette place-là et qu'ils, selon les propos de Canal et de Julien Febvre, rentrent pas dans la case 2 à 4% de la duo et qui ne peuvent pas développer, ça veut dire que les avaries majeures, elles sont sur le châssis. Sur la rigidité de cette Red Bull, c'est pour ça qu'on a dit tronc d'arbre, hein, c'est parce que. Parce
oui, voilà. Oui,
mais c'est terrible, hein, si tu, quand tu regardais Isaac à côté de Charles, comme ça, t'en as un, il est comme ça, qui est Isaac. Et l'autre, la voiture est un peu smooth, mais dans la ligne droite, c'était fou. Donc ça, c'est assez inquiétant. Quand tu vois qu'ils doivent éviter les vibreurs, qu'ils doivent faire un pilotage super coulé, ce qui ne correspond pas du tout à
aux deux pilotages.
Aux deux pilotes. Je me dis, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Maintenant, cette Red Bull a l'air d'avoir des fenêtres de performance très disparates aussi. Max, il y a des moments où il est plus rapide que Antonelli, il est plus rapide que Russell. D'autres moments où ça s'effondre un peu. Donc à voir, mais en tout cas, oui, c'est bien qu'ils aient scoré tous les deux. C'est bien que Isaac, après ce qui s'est passé à Miami et après ce qui s'est passé au Japon, je sais plus. Bref. C'est bien qu'Isaac montre qu'en qualification, il n'est pas du tout largué par Verstappen. En course, il a été largué, mais aussi parce qu'à un moment donné, sur les médiums, ça allait beaucoup moins facilement.
En termes de rythme, il n'y avait pas tant d'écart que ça entre Isaac et Max.
Non, mais il y avait une grosse différence de feeling.
Oui,
c'est-à-dire que Isaac ne comprenait pas la voiture, mais il arrivait quand même à en extraire quelque chose. Max comprenait la voiture, mais était énervé de la voiture, c'est pas pareil.
Mais... ils avaient deux plages de réglage complètement différentes. Hein. C'est Red Bull qui avait voulu ça pour tester quelque chose sur la voiture de Max, qui ne lui a pas plu, on le verra plus tard. Et par contre, Isaac avait des réglages un peu plus conventionnels.
Mais bon, encore une fois, faire 2 et 5 quand tu as tous ces problèmes-là, alors oui, c'est bien aidé par le moteur, mais c'est quand même un très bon résultat. Et je trouve, enfin, on peut commencer à le dire, j'ai l'impression quand même que Red Bull peut compter sur deux pilotes, ça y est.
Hamza, est-ce que Red Bull peut compter sur deux pilotes? Oui, on l'a vu ce week-end.
Bah, en tout cas, sur ce week-end, ça a été plutôt intéressant. Maintenant, Isaac Hadjar qui fait son meilleur résultat depuis son arrivée chez Red Bull, donc cinquième. Il y a quand même l'abandon de Russell. Ouais. Il y a les deux McLaren qui partent en pneumatique intermédiaire. Donc peut-être que Isaac et peut-être que Verstappen auraient pu terminer... certainement terminé derrière, puisque Verstappen aurait été éjecté du podium dans cette configuration-là. Moi, je sais pas quoi en penser, parce qu'effectivement, il y a, je trouve, un décalage entre le ressenti que tu as par rapport à cette voiture qui est en capacité quand même de se battre, de suivre globalement le rythme avec les deux pilotes. Isaac Hadjar, sur les 20-25 premiers tours, il est dans le rythme de Charles Leclerc et il reste globalement à 2 secondes environ. Et Verstappen, lui, il parvient à se battre devant. Mais en même temps, quand tu écoutes les deux pilotes, Isaac Hadjar qui ne comprend pas effectivement cette monoplace. Enfin, il y a, je trouve, un gros point d'interrogation autour de cette Red Bull. Mais en même temps, le jour où les pilotes trouveront ce qui ne fonctionne pas et comment faire pour que eux se sentent à l'aise, ça promet quand même de belles choses pour cette Red Bull.
Bah, t'as quand même le sentiment que les deux pilotes aujourd'hui ils masquent certains plus Max évidemment qu'Isaac, mais c'est normal, ils masquent certains problèmes de la Red Bull qui font qu'elle est réellement quatrième force. En termes de voiture pure, t'as McLaren d'un côté qui fait n'importe quoi, t'as Ferrari derrière qui a des caractéristiques un peu plus régulières, mais qui est visiblement pour le moment moins capable de coups d'éclat que la Red Bull. Mais en soi, les coups d'éclat, j'ai l'impression qu'ils sont faits par rapport à des fenêtres où les pilotes se sentent à l'aise et où Isaac Hadjar et Max Verstappen peuvent développer le plein potentiel de leur talent. Et hier, ça avait l'air d'être un peu le cas quand même. Mais il y a d'autres moments où cette Red Bull est nulle part. Mais quand je dis nulle part, c'est nulle part. Et t'as Max Verstappen qui fait 7 et le run d'après, il est en route pour la pole. Donc Isaac Hadjar qui fait pole position. Meilleur temps de Q2, pardon.
Oui, tu l'as pas vu venir.
Tu l'as pas vu venir et derrière,
tu comprends pas pourquoi.
Mais il est incapable de la refaire en Q3. Mais c'est pas parce que il a raté son tour, mais aussi le feeling, il était complètement différent d'un run à l'autre.
Mais c'est ce qu'a dit Verstappen. Il dit dans mon dernier run de Q3, il dit j'arrive à accrocher la 6e place, qui est un super résultat, mais je ne peux pas expliquer cette performance. Il dit je comprends pas pourquoi là à un moment donné cette fenêtre s'est ouverte, et on le sait, c'est un peu le souci chez Red Bull quand même ces deux dernières années, c'est qu'on a des voitures très pointues, un peu avec une fenêtre, on va dire, d'exploitation. D'optimisation qui est assez fine. L'année dernière, ils avaient mis plusieurs semaines, plusieurs mois justement à trouver cette fenêtre optimale. Peut-être que, comme tu l'as dit, hein, lorsqu'ils débloqueront cette fenêtre avec le moteur dont ils disposent, ça peut être une arme en tout cas très, très importante.
Tu parles de cette Q2, si tu prends les chronos, par exemple, entre Q2 et Q3, Verstappen, ils gagnent une demi-seconde. Isaac Hadjar, ils gagnent 4 centièmes. Si, alors c'est un immense si Isaac Hadjar, il gagne une demi-seconde, il est en pole.
Ah oui, c'est pas logique, puisqu'il voilà.
Non, mais même par rapport à la progression des autres, par exemple, un George Russell, lui aussi, il a gagné une demi-seconde entre Q2 et Q3. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une incapacité de manager justement cette voiture de la part des pilotes, ou en tout cas une incompréhension qui rend en fait des performances assez fluctuantes. Par moment, tu peux avoir des coups d'éclat, tu sais pas d'où ça vient. Et par moment, tu as un manque de performance et manifestement, tu ne sais pas non plus d'où ça vient.
Encore une fois, c'est le problème du... Enfin, il faudrait demander aux pilotes, mais ça reste quand même... Ça a l'air d'être quand même le problème de la rigidité d'une voiture.
Ouais,
c'est-à-dire que c'est quand tu es sur une fenêtre de performance des pneumatiques qui est très fine, et ils l'ont tous dit, hein, que trouver la fenêtre, Charles Leclerc l'a trouvé en... C'était en sprint quali, je ne sais plus. Où il dit, je l'ai trouvé, je ne sais pas comment, et du coup, je me suis maintenu à ça. Mais derrière, si tu as une voiture rigide, ça rend le truc encore plus difficile de trouver la bonne fenêtre, parce que tu ne peux pas t'appuyer justement sur le châssis pour aller mettre les pneus dans la bonne température. Donc en plus, derrière, si tu la mets dans une course où il fait 17 degrés de température piste, je comprends qu'Isaac Hadjar dise, je ne sais pas comment je fais pour la ramener à l'arrivée, parce qu'à tous les tours, je me dis que je vais l'envoyer dans le mur. Et Charles Leclerc, c'est pareil. Mais du coup, si c'est comme ça pour... La voiture en elle-même chez Red Bull, effectivement, ça ne leur permet pas de construire un développement sain pour la suite. Ils savent déjà qu'ils vont galérer à Barcelone, ils savent déjà qu'ils vont galérer sur certains circuits à courbe rapide. Si en plus de ça, sur les forces de la voiture, tu n'arrives pas à capitaliser, ils ont dit hier qu'ils comprenaient pourquoi ça marchait, mais ce n'est pas pour autant qu'ils comprenaient pourquoi ça ne marchait pas quand ça ne marchait pas. Bon, effectivement, c'est dur d'aller développer dans ce sens-là. J'ai pas envie que Red Bull devienne Aston Martin à ce niveau-là.
Non, très clairement, c'est pas leur souhaité.
Pardon. Isaac Hadjar vient de prendre un nouveau stop and go.
Ah,
il a accumulé les pénalités sur la. Ouais. Pourquoi il prend le stop and go?
Stop and go, c'est pour l'infraction sous drapeau jaune, je
Et
crois.
Et on sait quelle est l'infraction sous drapeau jaune? J'ai même pas
vu. Non, pas du tout. Mais on l'a pas vu à la réalisation.
Il me semble que c'est sur le drapeau jaune de Nico Hülkenberg.
Stop and go sur un drapeau jaune.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, un stop and go déjà.
Déjà, stop and go, oui, ça fait.
Mais c'est pas le cumul des 10 secondes? Avec les 10 secondes ou en fait,
quand tu il y a d'abord les 10 secondes qui tombent.
Non,
pour
il prend les 10 secondes et il respecte les 10 secondes.
Oui, oui, complètement.
Les 10 secondes, on rappelle, c'est pour son décalage en ligne droite sur Charles Leclerc qui aurait pu être dangereux. Et Charles Leclerc a dit qu'il y a eu une explication entre les deux pilotes.
Ouais,
et il y a pas de problème. Mais le stop and go, effectivement, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de.
D'ailleurs, tout petit mot sur Isaac.
On a une déclaration. Tiens, regarde, je mets les deux déclats et comme ça, je te fais réagir juste derrière. La première, elle est de Max Verstappen. Elle est quand même assez étonnante. Je voulais vous la partager. C'était sur Viaplay, donc le média néerlandais. C'est samedi après la qualif. Il dit : nous avons fait quelque chose de différent sur ma voiture. C'est ce que l'équipe voulait. Clairement, cela ne fonctionne pas comme cela devrait. Mais parfois, il faut aussi laisser l'équipe faire ses choix et leur montrer clairement que ça ne marche pas. J'ai dit, allez-y, si vous pensez que cela va fonctionner, alors faites-le. Et clairement, ça ne fonctionne pas. Je l'ai déjà signalé tellement de fois. Mais parfois, il faut simplement leur laisser constater par eux-mêmes. Bien sûr qu'ils m'écoutent très souvent, mais pas cette fois, parce qu'ils étaient convaincus que cela allait fonctionner.
Moi, je suis désolé, mais alors, encore une fois, je suis totalement éloigné. Je suis personne pour donner des leçons. Mais moi,
c'est étonnant quand même ça.
De l'extérieur, moi, j'ai un pilote comme Max Verstappen dans mon équipe. En fait, je l'écoute, point.
Ouais, ouais.
Ouais. Je l'écoute. Il a prouvé depuis 10 ans maintenant, peut-être pas 10 ans, mais en tout cas sur ces dernières années, toutes les décisions qu'il prend sont bonnes. Et même si ça ne rend pas intrinsèquement la voiture meilleure, ça permet à Max Verstappen de rendre cette voiture meilleure et de grignoter des centièmes ou des dixièmes, là où la voiture meilleure, mais avec un Verstappen qui ne parvient pas à la piloter, ça rend la voiture rapide pour personne.
Alors, ça a aussi permis à Sergio Pérez de se faire sortir en Q1 10 fois de suite. Mais il faut faire gaffe à
oui,
ça.
Oui, mais ça a permis à Verstappen d'être 4 fois champion du monde et une fois d'être proche le 2026. Si tu parlais tout à l'heure du crash d'Antonelli en Autriche, moi, je pensais à Antonelli aussi au Qatar. Enfin, on n'a rien d'un quintuple champion du monde. Ouais, avec, sur les deux dernières années, alors, je ne vais pas dire une épave parce qu'on n'est pas encore...
Non, mais l'un des plus grands exploits de l'histoire, peut-être.
J'aime bien ton épave. Hein.
Non, une épave, c'est Alonso 2012.
On se rappelle aussi qu'à Monza, après le départ de Christian Horner, on a beaucoup plus écouté Max Verstappen. On a mis Max Verstappen au cœur aussi des échanges sur les réglages et l'approche. Et que, par exemple, à Monza, il avait dit « débraquez-moi cet aileron arrière », que tout le monde, tous les ingénieurs avaient dit « non, mais les ordinateurs nous disent que ça va être une catastrophe ». Ils écoutent Max Verstappen avec le résultat qu'on connaît et les effets qu'on connaît. Donc c'est étonnant qu'il n'ait pas écouté ça.
Et juste pour rebondir par rapport à ta remarque, Brice, sur Sergio Pérez par exemple, à l'époque, ils avaient une voiture dominante. Donc, quand tu as une voiture dominante, D'essayer de construire une bonne voiture pour les deux, je peux l'entendre. Là, quand tu as une voiture qui n'est pas dominante et que tu cherches, parce que Red Bull, ça a toujours été la philosophie de Red Bull, c'est gagner, enfin, c'est un peu comme Raikkonen, c'est on gagne ou rien. Quand t'as la voiture, la quatrième force.
Qu'est-ce que tu le ramènes là?
C'est pas gratuit, mais c'est vrai, non, je le dis toujours. C'est marrant. T'étais le premier à évoquer le fait que s'il n'est pas champion du monde, il préfère terminer quatrième pour ne pas faire le gala de fin d'année. Donc je reprends tes propos de spécialiste de Kimi Raikkonen. Donc Red Bull, c'est un peu ça.
Comment il détourne la réalité,
c'est un truc de ouf. Et effectivement, aujourd'hui, tu dis que Red Bull est la quatrième force. Bah, si Red Bull est la quatrième force, écoutez votre pilote qui peut lui permettre d'aller chercher
une première supplémentaire. T'as deux manières de le voir sur ce sujet-là. Tu peux très bien le voir en mode Sainz, Norris, McLaren et en fait bosser avec les deux et rendre la voiture, on va dire, peut-être moins compétitive mais conduisible pour les deux, pour avoir deux feedbacks et permettre de développer dans le bon sens. C'est ce qui s'est passé aussi avec Sainz et Leclerc en 2021 pour permettre en 2022 d'avoir une voiture qui d'un coup d'un seul s'est remis à jouer aux avant-postes. Je pense que c'est deux
là c'est résultatiste, hein. C'est totalement résultatiste, mais
oui, mais McLaren, en fait, un pilote McLaren qui a montré, ça a marché, tu vois.
Oui, mais en fait, t'as un pilote qui a montré. Après, on va peut-être passer à autre chose parce que c'est peut-être pas le débat. Mais t'as un pilote qui a montré qu'avec une voiture, une bonne voiture, mais qui lui correspond parfaitement, il est capable d'aller chercher plus qu'un surplus de résultats. Il est capable d'aller chercher des titres, même lorsque la voiture ne lui permet pas de.
On peut pas reprocher à Red Bull d'avoir fait ça.
C'est bizarre de lui imposer 10 ans des réglages.
Pour, de dire il n'y a pas de voiture numéro 2, on ne pense qu'à Verstappen, pour au final aujourd'hui dire pensez à Verstappen. Là, en fait,
il a raison. La nuance, c'est lorsque tu domines, tu évoquais le cas Pérez, je reviens sur ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Je reviens sur ce que je disais il y a 3 minutes. C'est que, effectivement, lorsque tu as la voiture dominante, tu peux te permettre de ne pas construire la meilleure voiture pour Verstappen et essayer de aussi aider le deuxième pilote. En l'occurrence, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est tout ce que j'ai dit.
Une dernière déclaration, les gars, pour boucler sur Red Bull. Vous avez parlé très justement de Isaac et ses soucis, notamment de pénalité, et d'une explication avec Charles Leclerc à l'arrivée. Il le disait sur Canal. Je n'ai aucun problème avec la pénalité. Je pense qu'elle est juste. J'étais trop agressif et au fond, ce n'était même pas intentionnel. J'ai simplement mal compris sa trajectoire. Donc, je n'avais évidemment aucune intention de l'envoyer dans l'herbe. C'est un pilote très propre. Donc, je me suis simplement excusé parce que c'était un peu stupide. Voilà. C'était important de le préciser.
Moi, j'aime cette déclaration sur un truc, c'est que. Parce que Isaac, il a tellement cristallisé par rapport à son franc-parler. Et du coup, en fait, en France, franc-parler égale arrogance.
Ouais, ça.
Donc, le fait qu'il dise ça, je trouve ça bien. Parce qu'en fait, il va aller admettre une erreur que personne dans ses détracteurs ne le pensait capable d'admettre. C'est son pilotage, je suis agressif, c'est comme ça et tout machin. Non, il dit je suis allé un peu trop loin là-dessus. Bon bah voilà, c'est du franc parler, je trouve. Peut-être qu'il le pense pas, mais à minima, je trouve que le dire comme ça, ça permet de dire oui, Isaac Hadjar est plutôt sans filtre dans le bon comme dans le moins bon, et en fait c'est très très bien, ça marque juste un peu mieux sa personnalité, ça fait un peu.
Ah, complètement.
De recul sur ça.
De l'honnêteté et du recul, en tout cas, pour notre ami Isaac Hadjar. Quatrième et dernier enseignement, les gars. Parlons de McLaren. Deux héros à crétins. C'est pas moi qui le dis, c'est Oscar Piastri. C'est pour ça qu'on s'est permis. McLaren qui déboîte le travail de Woking. Voilà la titraille pour ce dernier enseignement. Avec ce dimanche, quand même plutôt gênant. Non, déjà, pour commencer, le week-end est pas trop mal commencé. L'apport de la suite du package de Miami. McLaren qui avait connu un bond en avant, on le rappelle, du côté des États-Unis avec la première partie du gros package d'évolution. La deuxième partie a été livrée justement du côté de Montréal avec un petit écueil, l'aileron avant qui a été abandonné justement après les essais libres pour un manque de compréhension et de performance. On a eu l'impression que McLaren était dans le match avec Mercedes tout au long du week-end, même si Mercedes a paru reprendre un petit avantage de rythme ce week-end avec ses évolutions. McLaren semblait, je vous le disais dans le match, on rappelle notamment en course sprint avec Lando Norris, même si on a eu les explications et les circonstances de cette bataille de Mercedes qui a permis à Lando Norris bien sûr de se rapprocher des leaders. Et puis comment ne pas évoqué, ce sera le cœur du sujet, le naufrage en course. On rappelle que Piastri a fini 11e et que Norris a abandonné. Le pari des pneus intermédiaires qui n'a pas fonctionné mais qui a peut-être aidé Norris à prendre la tête bien sûr dès le départ. Des erreurs de pilotage, la sortie dans l'herbe de Norris, Piastri qui dégomme Albon dans l'épingle. Il y a eu des dégâts qui l'ont handicapé toute la course et une pénalité de 10 secondes qui a été rédhibitoire. Et puis encore un week-end difficile pour l'Australien, on va le dire au global. Et puis l'abandon de Norris sur un problème de boîte de vitesse. Moi j'ai quand même l'impression qu'on a un week-end qui est plus que frustrant pour McLaren parce que il y avait très gros points à aller chercher ce dimanche et aujourd'hui à l'image de George Russell ils prennent une claque par le petit Antonelli.
Après le dimanche est quand même conditionné par ce choix de partir en intermédiaire.
Erreur donc, ou pas erreur, est-ce qu'on leur reproche ou pas les gars?
Ouais.
Parce que
je t'en prie.
En fait les prévisions météorologiques, effectivement, c'est un pari. Mais on n'est plus en 2007. Non, mais on n'est plus en 2007 à faire du spiker parce qu'il va pleuvoir sur le Nürburgring. On a quand même beaucoup plus de moyens technologiques qu'à l'époque pour savoir où est la pluie. Loïc Duval l'a même dit, il y a des spotters qui travaillent dans les écuries et qui sont à chaque coin du circuit et qui voient ce qui arrive. Là, je suis désolé. Ce sont les seuls avec qui, avec Cadillac. Et Cadillac, ça se comprend. Ils n'ont rien à perdre, eux. Eux, toi, tu pars en haut.
T'as Audi, je crois, aussi, non, qui tombe dans le
piège. Mais t'as rien à perdre quand t'es Audi
sûr,
là-dessus.
Bien sûr.
Là, dans le top 10, tout le monde part en soft, sauf eux qui partent en inter. Il n'y a pas de raison de faire ça. Pas quand tu es en fait en train d'essayer de rattraper Ferrari, que ton package fonctionne, que tu l'as vu samedi. Il n'y a pas de raison de faire ça. Les autres, tu sais très bien qu'ils partent en soft. Venez pas faire genre que c'est une surprise.
Comment tu sais?
Parce que tu le sais.
Et comment tu sais?
Ah mais tu
vois bien, réponse, tu le sais. Comment tu
non,
sais
Non, mais tu vois très bien. T'as fait les tests. T'as bien vu que ça grippait. Si tout le monde fait le même choix, c'est qu'à un moment donné, en fait, tu sais que globalement, ça part quand même.
Non, mais comment tu sais que les autres partent en soft?
Mais parce que ils ont fait les tests au même. Enfin, ils sont sortis de la piste au même moment. Sortis oui. des stands au même moment.
D'accord.
Il a replu un petit peu. Rien qu'en fait, mais tu peux quand même tester le grip de la piste à ce moment-là. La piste, elle a pas dégradé à ce moment-là. Il a pluvioté. Tout le monde. Enfin, ils font quasiment tous le même choix.
Je vous donne les explications émises des deux pilotes et comme ça Hamza, je te laisse répondre. Oscar Piastri dit à la F1 TV à l'arrivée, il dit: il pleuvait et entre l'hymne national et le moment où l'on montait dans la voiture, la piste était trempée. On voyait clairement où c'était sec et où c'était mouillé. Rejoindre la grille de départ avec des pneus slick n'était pas facile et atteindre la pleine puissance était difficile. Donc les intermédiaires étaient un choix qui se justifiait. Malheureusement pour nous, la pluie a cessé. S'il y avait plu un peu plus, on aurait eu l'air de héros. Mais comme il n'a pas plu, on a eu l'air de crétin. Lando Norris qui rajoute dans la foulée, toujours sur la F1 TV: nous avons pris la décision concernant les pneus intermédiaires en équipe et j'ai aussi insisté pour cela, donc j'en prends la responsabilité. Pendant le tour de chauffe, je me suis dit que c'était mort. Je ne pense pas que nous avions le rythme nécessaire aujourd'hui. De toute façon, j'avais beaucoup plus d'adhérence au départ. Ça montre à quel point la piste était glissante pour eux au début, donc ceux qui ont choisi bien sûr les slicks, et j'avais 2 secondes d'avance après un tour, donc ce n'était pas idiot d'avoir ces pneus. C'est vrai que quand on écoute les explications,
non mais
on se dit qu'il y a eu un jeu de qui tout double. Là où je te rejoins un peu plus, Brice, c'est sur le côté, en effet, quand tu as cette voiture-là et ce package-là, est-ce que tu prends un risque aussi important non, ou est-ce que mais, tu mais, le fais sur les deux caisses?
Pour eux, ce n'est pas un risque, en fait. Pour eux, ce n'est pas un risque. Pour eux, c'est un choix rationnel qui a été réfléchi. Les pilotes le disent. Je crois que c'est Oscar Piastri qui disait qu'au moment du protocole de l'hymne national, il a plu. L'hymne national, c'est quoi? 15 minutes avant le départ?
Ah, complètement.
Surtout
que les températures sont fraîches.
Je vais te reprendre. Quel est l'intérêt de McLaren de tenter un pari lorsque t'es 3 et 4? Il n'y a aucun intérêt. Donc s'ils ont pris cette décision, c'est que c'est un choix réfléchi, rationnel, qu'ils ont des informations que nous, on n'a pas. C'est facile de parler sur le canapé. Eux, ils sont sur place. Ils ont toutes les données. Dire que les autres... En fait...
Les autres aussi, ils ont trouvé d'informations, ils ont fait un autre choix.
Je trouve que la manière de raconter, c'est malhonnête parce que tu sous-entends que McLaren est au courant.
Garde les mots.
Que McLaren est au courant du choix des autres et qu'ils ont voulu faire quelque chose de différent. Non, McLaren n'est pas au courant du choix des autres. Lorsque tu arrives en grille, tu découvres. Ce que tu peux reprocher à McLaren, par contre, c'est après le tour de mise en grille, d'autant plus qu'il y a eu un problème, mais après le tour de mise en grille, de ne pas avoir fait tout de suite rentrer Oscar Piastri et Lando Norris pour partir en pneumatique soft, medium, ce que tu veux, et à ce moment-là gagner du temps par rapport à un arrêt.
Mais ça aurait été plus difficile.
Et je vais terminer. Lando Norris, au départ, il part sur la deuxième ligne, au premier virage, il est premier. Sur l'un des circuits, c'est peut-être le circuit, peut-être avec Bakou, comme ça de tête, où entre la zone du départ et le premier virage, il y a le moins de distance. Ouais. Il y a le moins de distance au calendrier. Et Lando Norris se retrouve en tête au premier virage. Donc c'est facile après coup de dire McLaren s'est trompé, McLaren a été ridicule. Moi, ce que je note, c'est que Lando Norris réalise le meilleur départ et qu'à ce moment-là, sincèrement, je ne suis pas certain qu'on est tous autour de la télé ou peu importe à dire McLaren a fait le mauvais choix. Même si Oscar Piastri a dit à la radio dès le tour de mise en grille, on s'est peut-être trompé et je crois que lui à ce moment-là sollicite peut-être un arrêt.
Il demande la réflexion sur le deuxième tour de formation de rentrer au stand.
Voilà. Mais c'est en fait
c'est peut-être du 50-50, peut-être du 55-45, mais on n'est pas sur du 90-10 avec un pari tenté venu de nulle part et McLaren qui s'est totalement planté.
T'as pas le sentiment, sur cette histoire de cette appellation de coup de poker, t'as pas le sentiment, McLaren nous expliquait, Lando Norris nous expliquait tout le week-end qu'il y avait vraiment un déficit, que Mercedes était impossible à aller chercher et qu'il n'y ait pas eu justement cette tentation de tenter avec les intermédiaires, de se dire, bon bah de toute façon à la régulière on pourra pas aller les chercher, donc du coup on va tenter ce coup-là pour essayer.
Non, parce que moi je crois que si justement. T'as trop à perdre quand t'es 3 et 4. Si tu pars 3 et 4 et que je sais pas comment tu prépares ta course, mais si tu pars 3 et 4, j'imagine qu'une écurie se dit si on ne termine pas 3 et 4, on aura peut-être perdu des points, ce sera une déception. Donc 3 et 4, c'est quoi? C'est 15 et 12, 15 plus 12, 27. Tu prends 27. Ça veut dire que t'as 27 points à perdre sur un coup de poker. Moi, j'y crois pas. Je te rejoins sur le coup de poker des pilotes qui sont en fond de gris,
oui, bien
ou en
sûr.
Seconde partie de gris. Carlos Sainz, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Bortoleto, Bottas, Perez, Norris. Ils sont 7 à être partis en pneumatique intermédiaire. Et me semble-t-il, dans le top 10, t'as les deux McLaren et t'as, je crois, Nico Hülkenberg qui est parti.
Oui, exactement. Nico Hülkenberg a fait ça aussi. Ouais.
Hülkenberg aussi, il avait à perdre beaucoup moins dans le championnat du haut de tableau, beaucoup moins que McLaren. Mais je trouve que c'est dur aujourd'hui d'en vouloir à McLaren d'être parti en pneumatique intermédiaire. Et derrière, la course du coup devient injugeable pour l'écurie.
Y a quand même des erreurs,
même si Oscar Piastri, j'étais abasourdi par la tentative de dépassement d'Oscar Piastri qui coûte la course à Alex Albon et m'est revenu en tête la déclaration ou la radio de Carlos Sainz peut-être sur le dernier ou sur l'avant-dernier Grand Prix concernant Max Verstappen et c'est pas la première fois que je le note. Les pilotes qui habituellement se battent pour des victoires, lorsqu'ils se retrouvent en milieu de grille, ils ont tendance peut-être par impatience à tenter n'importe quoi.
Surpiloter, ouais.
Et c'est assez... Enfin, 10 secondes, je crois qu'il a pris 10 secondes Piastri, oui. J'aurais pas été scandalisé qu'il prenne beaucoup plus. Hein.
Bah, je trouve que ça vaut plus un stop and go que Isaac.
Voilà, par exemple.
Parce que c'est vrai que c'est...
Après Isaac, on n'a jamais vu ce qui s'est passé avec
non, mais c'est un mou, c'est le move d'Oscar Piastri, c'est un move que tu fais sur Formula 1 25 et t'es honteux de le faire, même sur console. Hein. C'est j'ai pas compris. De toute façon, Oscar Piastri
compliqué ce début de saison quand même.
Bah après il y a pas mal de choses qui sont venues extérieures à lui abîmer ce début de saison, mais j'ai quand même l'impression que pour reconstruire en tout cas un chemin vers l'Oscar Piastri qu'on connaît. C'est dur. Hein.
Et puis en coulisses, il y a des choses qui changent. C'est pour Oscar Piastri, c'est séparé de Mark Webber. Enfin, on a l'impression qu'il y a,
et
y a
puis,
certaines
y a
choses.
Il y a Red Bull qui lui fait du pied. Enfin, t'as l'impression qu'il n'est pas forcément totalement là, le prodige.
Je trouve, quand il était dans le peloton, il a remonté beaucoup plus facilement qu'Oscar Piastri, qui de temps en temps restait bloqué. C'est peut-être ce qui a valu cette impatience et parce qu'en fait c'est une tentative de double dépassement. C'est je dépasse Berman, peut-être qu'il n'avait pas pris l'information, peut-être que la voiture d'Albon était masquée par Berman, je ne sais pas, mais force est de constater que c'est un crash ridicule.
On rappelle qu'à l'épingle il y avait peu d'adhérence aussi, et qu'on l'a vu hein, d'ailleurs dans la bataille avec les Mercedes, et qu'on sait qu'il n'aime pas trop ces conditions.
Mais surtout que Piastri il rentre plus tôt que Norris, en se disant certainement que s'il rentre plus tôt que Norris, comme il n'a pas l'avantage de la track position que Norris a, lui en mettant des pneus slick plus tôt, il va davantage, enfin il va ressortir devant Norris, ce qui n'est pas du tout le cas. Norris avec l'air libre devant lui, en fait il fait des tours même en inter, et au bout de 5 ou 6 tours il rentre et il ressort devant. Donc à partir de là je peux comprendre qu'il y ait une frustration, mais par contre
loin devant, je crois il y a 4-5 secondes d'écart, ouais. L'écart est plus important après l'arrêt de Norris qu'avant le premier arrêt de Piastri.
Oui, mais parce que Piastri se retrouve dans un trafic et je pense qu'en sortant des stands avec des pneus pas chauffés par les tours de formation, des pneus slick, ils sortent en médium d'ailleurs, je pense que les tours de sortie sont très délicats au vu de la température de la piste et au fait que potentiellement ce soit encore un peu mouillé. Revenons 2 secondes sur Norris. Je me fais claquer par son niveau depuis le début de saison. Il y a quelques petites erreurs.
Depuis le nouveau package évolution. Hein,
mais franchement, il est d'une solidité. Et je trouve que c'est un de ceux qui me fait le plus peur cette année, parce que je le trouve régulier, rapide. Il va chercher tout ce qu'il y a à aller chercher. C'est tout ce qu'on lui a reproché en 24. Il a tout gommé. Et sincèrement, là. Et je le trouve très très solide, avec beaucoup de matière. Vraiment, je le trouve très très fort.
Et lui se régale de la bataille des Mercedes. Hein.
Il prend tout ce qu'il y a à prendre.
Exactement, il n'y a pas une interview où il n'en parle pas, où il se dit plus ils se battent devant, plus moi ça me permet justement d'être au contact et d'aller chercher
des
nouveaux
points. Il y a un fossé en ce début de saison avec Piastri que je ne pensais pas exister.
Clairement. Peut-être la confiance, peut-être aussi l'héritage d'une saison voilà, qui s'est terminée avec deux dynamiques, on va dire, complètement différentes. N'enterrons pas Oscar Piastri, mais en effet, l'écart est un peu inquiétant, on va dire, entre les deux pilotes pour le moment. On a l'impression que le package évolution de McLaren s'y mieux aussi au pilotage de Lando Norris plutôt qu'à celui d'Oscar Piastri.
Que cette génération de voitures s'y mieux à Lando Norris qu'à, qu'à Oscar Piastri. L'équilibre est différent quand même et... T'as quand même l'impression qu'il est plus à l'aise, Lando Norris. Même si Oscar Piastri fait quand même des très bonnes choses sur le week-end, tu vois. Enfin, en qualif, il n'est pas du tout largué. Mm-hmm. Mais il suffit qu'il y ait un grain et... Je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'il y a encore un petit peu de boulot sur certains aspects pour Oscar Piastri.
Il y a du boulot, il y aura du retard à rattraper malheureusement pour McLaren. On va le voir justement avec la situation comptable et les classements pilotes et constructeurs après la cinquième course de cette saison 2026. Mais du temps à se décompter cette saison. Je pense qu'à un moment donné, on va se prendre un mur de 6 courses d'affilée, on va pas comprendre. Antonelli donc toujours en tête avec un écart qui se creuse, 43 points d'avance sur George Russell. Mais regardez, hein, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, si on leur donne un moteur, il y a peut-être moyen d'aller faire la jonction.
Hamilton a 3 points de Leclerc.
Hein. Ouais, bien sûr.
C'est... Et puis, enfin,
Leclerc... Toi, tu notes 3 points de Leclerc, moi, je note 16 points de Russell.
Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, Leclerc a 13 points de Russell. Ça, je trouve ça fou comparé au niveau des voitures. Ouais. Mais bon, Russell a manqué un peu de chance quand même cette saison.
Ah oui,
la Chine avec cette voiture qui va pas dans les essais à la qualification. Et puis là,
la safety car au Japon.
Ça fait 3 Grands Prix sur 5 où il y a quand même des trucs qui se passent contre lui. Ça fait mal au classement.
Exactement. Peut-être qu'il n'aura pas la Schumund comme cela tout au long de la saison. Et peut-être qu'Antonelli aura peut-être un peu moins de réussite. Et puis le classement des équipes, des constructeurs Mercedes en tête, largement en tout cas devant Ferrari qui s'est assuré un petit matelas justement après ce zéro pointé du dimanche du côté de chez McLaren qui compte désormais 41 points d'avance. Et puis Red Bull qui prend un peu plus le large sur Alpine qui a marqué quand même de gros points de voitures dans le top 10, on le rappelle, du côté de l'écurie française, franco-britannique, vous l'appelez comme vous voulez bien, évidemment.
Juste, tu évoquais le mur qu'on va se manger avec un moment peut-être 6 courses d'affilée. Les infos de Sky Sport en Angleterre, c'est on va peut-être terminer la saison en Arabie Saoudite le 20 décembre et ils vont ajouter... Ouais,
c'est énorme.
C'est Noël. Et ils vont rattraper Bahreïn...
Le 4 janvier.
Juste avant, je crois, c'était juste avant, ou juste après Sao Paulo, me semble-t-il. En tout cas, voilà, sur la fin de saison, on pourrait avoir effectivement un calendrier bien condensé.
Ça fera un finish au forceps là pour les pilotes et les écuries. 20 décembre, ben voilà. Notez sur les agendas, partez pas en vacances.
C'est l'idée
tout de suite,
en tout cas.
Pour les Grands Prix du Golfe, Dominique Allier est capable de demander la création d'une semaine supplémentaire dans l'année civile pour les intégrer. Ça paye tellement cher que.
Le 34 décembre.
Je suis sûr qu'à Aramco, c'est quoi le co-sponsor de Bahreïn? C'est Golf.
Golf, ouais.
Non mais pas Golf.
Une compagnie aérienne tout à fait du Golf.
Je suis sûr que ces sponsors-là négocient en disant à la F1 si on n'apparaît pas, on paye pas.
Mais très clairement,
il doit dire c'est pas notre problème, mais
il y a un enjeu de soft power pour montrer que la crise est entre guillemets passée, qu'on peut y aller sereinement. Je pense que c'est ça l'avantage. Et surtout, on rappelle que ce qui bloquait pour le moment, c'est qu'Abu Dhabi tient sa place parce qu'il paye un droit de plateau vraiment particulier pour sa place de Grand Prix final, et que certains aimeraient s'insérer. Et avec les informations justement que tu viens de nous donner, peut-être qu'on aurait trouvé un accord.
Après, au vu de la domination de Mercedes depuis le début de saison, peut-être qu'Abu Dhabi tient moins à payer plus pour sa place de finale, puisqu'a priori normalement un pilote Mercedes sera champion avant.
Attendons de voir, il y a la duo qui va arriver, les gars. Et on va avoir
tu
des réponses d'ailleurs.
Hamilton.
Attention. C'est la grosse cote. Hein.
Donnez-lui.
C'est la très grosse cote. Hein. Il a fait une course incroyable à Hamza, il est comme un fou.
Justement, dans deux 2012. Semaines, dans deux semaines, les gars, on se retrouvera pour débriefer le Grand Prix de Monaco. Ferrari est annoncé favori. Est-ce que ce sera le cas? On sera là justement pour tout vous raconter. Et d'ici là, on aura les informations de la duo. Est-ce que justement les instances de la Formule 1 permettront à certaines équipes, à certains motoristes de travailler, d'apporter des évolutions et de se rapprocher de Mercedes? Voilà la promesse en tout cas, vous avez été excellent. C'est un plaisir de vous retrouver, les gars. Ces émissions à 3 sont exceptionnelles. Merci Brice, merci Hamza. Merci à vous chez vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à Paddock Pass et à RMC, c'est le plus important. Ciao.